Les rendez-vous santé d'Africa Radio, la prévention, en partenariat avec Santé Publique France.
Dans l'émission, nous revenons ce matin sur les risques de la consommation d'alcool et plus spécifiquement la consommation d'alcool pendant la grossesse. Oui, consommer de l'alcool, c'est très dangereux pendant une grossesse. Trop de femmes ignorent encore aujourd'hui les risques que peuvent produire l'alcool sur le bébé à naître. En effet, l'alcool traverse librement le placenta et imprègne le bébé. Encore trop d'idées fausses ou de tabous sur ce sujet. C'est pourquoi Santé Publique France communique largement, et ce sera le cas dans quelques jours, avec un nouveau slogan fort et sans équivoque: zéro alcool pendant la grossesse. L'alcool pendant la grossesse, c'est la première cause de handicap mental d'origine non génétique chez l'enfant: malformations, difficultés d'apprentissage, troubles de l'attention et du comportement et bien plus, et qui persiste à l'âge adulte. Pour en parler, j'accueille au téléphone d'Africa Radio en direct de La Réunion, c'est le professeur Bérénice Doré. Merci d'être avec nous, professeur, ce matin. Vous êtes directrice du Centre Ressources Ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fœtale du côté de La Réunion. Alors, professeur, le 9 septembre prochain, donc lundi, aura lieu la journée mondiale de sensibilisation aux troubles causés par l'alcoolisation fœtale. Et quelles sont les missions de cette journée? Quels en sont les objectifs? Bonjour.
Bonjour à tous, donc merci beaucoup de m'accueillir. Donc oui, lundi prochain, donc c'est le 9 septembre, donc le 9-9, hein, le 9 ça rappelle les 9 mois de la grossesse.
Absolument.
C'est donc la journée de prévention sur les troubles causés par l'alcoolisation fœtale. C'est pour rappeler, mais aussi peut-être informer déjà l'ensemble de la population, tous les professionnels qui sont en charge du suivi des femmes enceintes, mais également donc l'ensemble de la population, des risques que fait causer l'alcool à un embryon, un fœtus, un futur bébé.
Alors au fil des années, l'alcoolisation féminine a cessé d'augmenter, alors ce phénomène n'épargne pas les femmes enceintes, et aujourd'hui on sait que même un seul verre d'alcool peut être néfaste pour le bébé, surtout s'il est pris pendant certaines étapes clés du développement. Alors on voit qu'au fil du temps, le message des autorités en matière de santé a évolué, professeur.
Tout à fait, il a évolué, alors c'est une très bonne chose, mais ça concourt également quand même à une certaine confusion dans l'esprit des gens. C'est clair qu'il y a quelques années, on entendait très régulièrement, même de la part des professionnels de santé, qu'un verre de temps en temps, pendant la grossesse, ou aussi pour l'allaitement, la bière pour l'allaitement notamment, oui. C'était pas dangereux, que ça pouvait même être positif. Alors on revient très clairement sur cette affirmation qui est totalement fausse. Il est clair que, et c'est le message donc que relance Santé Publique France, mais que un verre à un mauvais moment, hein, on va revenir certainement sur le mauvais moment, hein, mais en particulier chez une femme qui est peut-être plus à risque, qui a moins d'armes pour défendre son futur bébé, ça va dépendre également du patrimoine génétique du futur bébé, eh bien ce verre, cet unique verre, peut avoir des conséquences. Alors un verre, qu'on soit bien d'accord et qu'on n'affole pas non plus toute notre population de femmes enceintes ou qui ont le souhait de devenir enceintes, un verre c'est un petit risque, c'est un tout petit risque, mais c'est un risque tout de même. Et surtout si ce verre, il se répète une fois par semaine, voire plus à l'occasion des fêtes, là, c'est autant de petits risques finalement qui s'accumulent.
Alors nous nous adressons ce matin aux femmes, hein, qui nous écoutent, mais nous nous adressons aussi aux hommes, professeurs, puisque l'alcool, vous dites, perturbe l'expression des gènes de l'embryon et du fœtus, ce qui explique la plupart des troubles, mais perturbe également l'expression des gènes dans les cellules sexuelles et les spermatozoïdes. Ça a été étudié, c'est nouveau. C'est important de dire que la consommation masculine n'est pas sans risque également.
Exactement. Et ça, je pense que c'est, comme vous le dites, un concept nouveau. Je pense qu'il faut en parler. Alors, je pense que d'abord, la question de toute façon de l'alcoolisation fœtale ne doit pas être limitée, on va dire, à un public féminin. tout le monde est concerné et au contraire, se restreindre au public féminin, c'est maintenir une sorte un petit peu de culpabilisation, voire de stigmatisation de ces femmes. Un bébé, ça se fait à deux. Un bébé, ça se fait avec des cellules sexuelles. Hein, donc, ce sont les ovules pour la femme, les spermatozoïdes pour les hommes. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que quand on consomme, même quand on n'est pas enceinte, quand on consomme les uns les autres de l'alcool, l'alcool, c'est un produit toxique. C'est un produit toxique pour toutes nos cellules, les cellules du foie, les cellules du cœur, les cellules de notre cerveau, et bien également aussi les cellules sexuelles. Alors en fait, comment va agir cet alcool ? On sait maintenant, et là je reprends ma casquette de généticienne.
Donc là c'est lors de la fécondation, lors de la du rapport et de la fécondation.
Alors même avant la fécondation, hein, au moment vraiment donc de la fabrication et de la maturation du spermatozoïde, on sait que l'alcool en fait va agir sur l'expression des gènes. Les gènes, c'est ce qui va permettre après, au cours de la grossesse, de fabriquer le cœur, les bras, les jambes, le cerveau, etc. Un gène doit être allumé, éteint. Eh bien, l'alcool va agir un petit peu comme sur un interrupteur, en fait, sur l'expression de ces gènes. Un gène qui aurait dû être normalement s'allumer, ben, va peut-être rester éteint. Un gène qui aurait dû être éteint va s'allumer. Hein, donc, on va avoir une anomalie de l'expression de ces gènes. Oui. C'est très problématique, bien sûr, pendant la grossesse, et c'est un des mécanismes, on va dire, des malformations ou des anomalies qui surviennent chez les fœtus, mais ça peut se produire également au niveau du spermatozoïde. Donc on sait que le spermatozoïde est fragile, donc une consommation d'alcool chez l'homme, hein, et si c'est ce spermatozoïde qui est à l'origine donc du futur bébé, et si ce spermatozoïde a des anomalies au niveau de l'expression de ses gènes, eh bien ça va conduire également à des perturbations chez le futur enfant.
Alors, on a quelques chiffres, hein, puisqu'en France, entre 2006 et 2013, 3207 nouveau-nés, soit une naissance par jour environ, ont présenté au moins une conséquence liée à l'alcoolisation fœtale, dont pour 452, soit une naissance par semaine, un syndrome d'alcoolisation fœtale. Que disent ces chiffres, professeur ?
Alors, ces chiffres, ils nous disent déjà que ce problème de... Alors, on parle maintenant de troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale. C'est la même chose que les troubles causés par l'alcoolisation fœtale. C'est un problème majeur de santé publique. On est sur des chiffres qui sont déjà extrêmement importants et des chiffres qui sont, de toute façon, il ne faut pas se leurrer, sous-estimés. Sous-estimé, parce que là, c'est les chiffres que vous citez et qui ont été révélés par, et c'est une étude très importante de Santé publique France, donc qui est sortie l'an dernier, ces chiffres, on va dire, font état de la forme la plus visible, la plus voyante des troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale. Les troubles, voilà, quand on a véritablement un syndrome d'alcoolisation fœtale, on y reviendra peut-être, le syndrome d'alcoolisation fœtale, le fameux SAF, hein, c'est lui qui va associer des signes physiques, donc que l'on peut voir, et des signes mentaux, et des signes mentaux que l'on ne voit pas habituellement ou le plus souvent dans les premiers mois de vie, qui vont être détectés plus tard. Donc ces chiffres, ils ne révèlent, on va dire, que la partie émergée de l'iceberg, le syndrome d'alcoolisation fœtale. Et en plus, et là c'est une notion extrêmement importante, dire ces chiffres font état des enfants qui ont été diagnostiqués comme tels, et on a encore beaucoup de difficultés en France ou ailleurs, mais en France notamment, à repérer ces nouveau-nés, ces nourrissons et plus tard les enfants qui sont porteurs d'un syndrome d'alcoolisation fœtale, puisque le syndrome d'alcoolisation fœtale, il est mal connu auprès du grand public, mais il est encore, et c'est dommage, mal connu des professionnels, notamment des professionnels de santé, mais pas que.
Alors en fait, physiologiquement, ce qui se passe, c'est que lorsque l'alcool est bu par la mère, l'alcool donc passe dans le sang de la mère, donc le sang du bébé, par le biais du placenta, c'est bien ça, professeur ?
Ben, tout à fait. Hein, c'est une dame qui va consommer un verre de vin, un verre de bière. Ça va passer dans son tube digestif, hein, au niveau de l'œsophage, au niveau de l'estomac. Ça passe dans les intestins. À partir des intestins, ça arrive dans le sang de cette maman. Donc si on lui fait une prise de sang, on va voir que son alcoolémie, elle monte. Et puis, cette dame, elle est enceinte. Donc elle a un organe en plus. Cet organe en plus, c'est le placenta.
Ouais. Hein,
le placenta, c'est un peu, donc un petit peu comme une éponge, si on regarde, qui va se former, se développer, grossir tout le long de la grossesse et qui permet les échanges entre le sang de la maman et le sang du bébé. Hein. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que bah, ce placenta, il arrête certains produits, mais l'alcool qui est vraiment une toute petite molécule, un tout petit produit, le placenta ne l'arrête absolument pas. Donc l'alcool qui est dans le sang de la maman va se retrouver exactement à la même concentration chez le bébé.
C'est-à-dire que si on boit un verre, le bébé boit un verre.
Et voilà, et ça c'est extrêmement important, cette notion du verre. Moi je l'utilise régulièrement quand je discute avec les gens, parce que souvent on dit bah un verre, c'est juste un verre. Oui, mais je veux dire vous mesurez, vous êtes adulte, vous mesurez 1m60, vous faites 60 kilos. C'est-à-dire, il faut bien comprendre que ce verre va se retrouver, je veux dire, au même état chez un embryon qui, peut-être à 3 mois de grossesse, va à peine mesurer 5-6 cm et qui pèse rien du tout.
Mmh.
Il va avoir la même concentration. Et ça, c'est quelque chose qui est connu depuis des années. Et puis, nous, quand on boit un verre, hein, alors, je veux dire, de toute façon, toute consommation d'alcool est toxique, hein, mais nos organes, ils sont déjà construits, ils sont déjà finis. Tandis que là, on se retrouve auprès d'un embryon qui doit construire ses organes, qui doit faire maturer ses organes. Donc, l'effet toxique va être encore plus important.
Alors, c'est important aussi de rappeler que les risques sont les mêmes, quel que soit le type de boisson alcoolisée consommée. On a peut-être tendance à minimiser lorsqu'on parle de bière ou de cidre, par exemple, où il y a moins d'alcool. Mais tous les alcools sont concernés, professeur.
Tout à fait. Quand on parle de verre, en fait, il faut parler donc de boissons alcoolisées. Dans les boissons alcoolisées, que l'on consomme de la bière, du vin blanc, du vin rouge, du cidre, de la tequila, peu importe, dire le point commun de tous ces produits, c'est de comporter de l'alcool. Donc, quand on parle de verre, quand on dit bah, un verre, c'est dangereux,
c'est-à-dire
ce verre, on pense souvent en fait au verre qui va nous être servi si on passe une commande au café, au restaurant. Dire un verre de vin habituellement en France c'est 12 centilitres, ben, si on demande une bière habituellement c'est 25 centilitres, si on demande un rhum habituellement c'est de à peu près 3-4 centilitres, tous ces produits vont contenir la même quantité d'alcool. C'est ça qui est important.
Mmh.
Et donc cet alcool, qu'il émane du cidre ou du rhum ou d'autres produits, est tout aussi toxique. L'enfant ne fait pas la différence. Et habituellement, quand on consomme, on va probablement avoir tendance à prendre plus de verres de bière qu'on ne va boire de verres d'alcool fort, bien souvent dans la consommation courante. Quoi.
Alors, peut-on à présent énumérer un peu les différents risques? Alors, quels sont les risques d'une consommation d'alcool pour les bébés? Alors, il y en a tout plein. Alors, quels sont ces risques, professeur?
Alors, les risques, en fait, ils sont de différents ordres. Alors, ce qu'il faut rappeler quand même, même si ça va, c'est pas, on va dire, le propos forcément de l'émission, mais c'est vrai, il faut le rappeler, on peut consommer, et parfois des consommations qui vont être considérées comme importantes et qu'il n'y a aucun effet.
C'est comme la loterie, en fait. Hein,
c'est une loterie.
D'accord.
C'est une loterie qui dépend de plein de choses, vous les avez rappelées, qui dépend de à quel moment on consomme, bien sûr la quantité, et est-ce qu'on est, et est-ce que mon bébé est protégé, on va dire génétiquement, ou au contraire, est plus vulnérable. Donc ça va dépendre absolument de plein de choses. Mais c'est vrai qu'on a des dames, et ça, quelque part, ça rend des fois moins crédible notre message de prévention, mais qui vont nous dire, écoutez, moi j'ai consommé de temps en temps.
Et mon bébé n'a rien.
Il va très très bien. Alors moi déjà pour dire il n'a rien du tout, je veux dire il faut considérer déjà cet enfant vers 7, 8, 9 ans, être sûr qu'il n'a pas de difficultés scolaires, de problèmes de comportement. Et là oui en effet, je dis, il n'a rien du tout. Eh bien tant mieux, c'est la chance, mais c'est un coup de chance et il faut vraiment le considérer comme tel. Sinon, les risques, on va dire de l'autre côté du spectre, ils peuvent être déjà extrêmement sévères, puisqu'il faut savoir qu'une alcoolisation, en particulier une alcoolisation importante, aiguë, plusieurs verres de suite. Ouais. Et c'est souvent le cas de nos jeunes filles, nos jeunes femmes qui peuvent avoir un comportement de ce qu'on appelle le binge drinking, ça veut dire sur un temps court, consommer comme ça plusieurs verres avec une alcoolémie qui va monter très vite. Eh bien, ce type de consommation peut conduire déjà à un arrêt de la grossesse. Et ça, souvent, on ne le sait pas. Et très probablement, des consommations d'alcool importantes, à un moment d'ailleurs précoce au cours de la grossesse, à un moment
les trois premiers mois de la grossesse, d'accord, ok.
Oui,
les...
voilà, ou même très tôt, peut conduire à une fausse couche. Et moi, je suis toujours étonnée, parce que moi, je fais des consultations de génétique, et bien parfois, les gynécologues, les médecins traitants m'adressent des dames, et leurs conjoints, bien sûr, pour lesquels il y a eu plusieurs fausses couches. On se pose la question d'un problème de chromosome, et on oublie que ça peut être l'alcool. Cette question, il faut la poser. Il peut y avoir également des décès plus tard dans la grossesse, qu'on appelle des morts fœtales in utero, à cause de l'alcool, et notamment des consommations importante, mais quand je dis importante, c'est 3, 4, 5 verres dans une soirée, finalement, je veux dire, c'est quelque chose qui peut avoir lieu et pas si rarement que ça. Donc là, c'est vraiment la situation extrême, l'arrêt de la grossesse. Et puis, on va avoir ensuite des tableaux cliniques différents. Alors, celui que l'on, on va dire, connaît bien, l'archétype, c'est bien sûr le syndrome d'alcoolisation fœtale. Donc, le syndrome d'alcoolisation fœtale, je le disais, en fait, il va associer des signes physiques. Alors, des signes physiques et des signes mentaux. Des signes physiques, ça va être déjà la croissance. La croissance de cet enfant va être altérée. On va avoir un retard de croissance. Ça se voit au niveau du poids, au niveau de la taille, et puis également quand on mesure le tour de tête du bébé, le périmètre crânien, ce qui représente la croissance du cerveau qui est dessous, ces chiffres vont être abaissés, et on les connaît bien, c'est ceux qui sont marqués sur la première page du carnet de santé. Oui. Il y a la taille de naissance, le poids de naissance, le périmètre crânien. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes à vérifier. Et puis, lors des échographies pendant la grossesse, eh bien, l'obstétricien, le radiologue, le médecin, la sage-femme qui font les échographies doivent être extrêmement attentifs à la croissance du futur bébé et se poser la question de l'alcool s'il y a un problème de fléchissement ou d'arrêt de la croissance. Donc il y a la croissance, et puis ensuite il y a tous les organes. L'alcool ne choisit pas. L'alcool va rencontrer un organe qui est en train de se former, et si c'était, on va dire, le mauvais moment, le moment où on devait allumer ou peut-être éteindre des gènes, eh bien, il peut être à l'origine de malformations du cœur, de malformations du visage, et ces enfants ont un visage que l'on peut reconnaître, des malformations du cerveau, des malformations des reins, etc. Donc des malformations multiples. Donc là, c'est ce que l'on est susceptible de voir. Et puis ces enfants qui ont un syndrome d'alcoolisation fœtale, ils vont également avoir, à la naissance et puis repérer dans les premiers mois de vie, voire les premières années, des difficultés au niveau de leur apprentissage. Oui. Les apprentissages, c'est tenir sa tête, tenir assis, se mettre debout.
Au niveau de la motricité.
La motricité, tout à fait.
L'adaptation sociale aussi.
Alors voilà, la grande difficulté, le gros problème, finalement, c'est pas tant les tout premiers mois de vie, oui, bien sûr, mais pas tant, c'est que ces difficultés sur le plan cognitif, donc sur le plan mental, vont bien sûr persister et être de plus en plus visibles et être de plus en plus handicapantes au fur et à mesure que l'enfant grandit, c'est-à-dire pour l'école, pour arriver à suivre à l'école, et puis ensuite pour pouvoir s'adapter et s'insérer dans notre société, avoir un travail, avoir une vie sociale, être capable d'adaptation. C'est là, finalement, où les difficultés sont plus importantes. Alors, donc le SAF, c'est ça. On peut avoir des tableaux moins complets, oui.
On va y revenir dans un instant. Il y a un auditeur au téléphone, c'est Jomo de Beng qui dit « J'ai travaillé en PMI, on faisait de la sensibilisation auprès des femmes. Merci d'avoir patienté. » Jomo, nous vous écoutons, allez-y.
Oui, bonjour Aïssa, bonjour à votre invité, au docteur. Docteur, moi je suis au département de l'Essonne, donc vous êtes sans ignorer que... Nous gérons tout ce qui est PMI et moi j'y ai travaillé par expérience. Depuis 5 ans j'ai travaillé, maintenant j'ai été affecté ailleurs. Et tout ce temps qu'on faisait, nous on n'a fait que de la sensibilisation. la sensibilisation, c'était sur quoi? Sur l'effet de l'alcool après la naissance, pendant la grossesse. Et généralement, les messages étaient très bien perçus parce qu'on avait quand même des docteurs, on avait des puéricultrices, on avait des gynécologues qui en parlaient régulièrement.
Oui.
Et voilà, qui en parlaient régulièrement. Et franchement, dans le SON, enfin, dans les PMI que j'ai, où j'ai servi, il n'y en avait pas aussi trop de cas. Mais je peux aussi parler quand même de la cigarette qui était vraiment très récurrente parce que les femmes ont du mal aussi à arrêter la cigarette pendant la grossesse. Ça, c'est un fait connu et même avec la sensibilisation, ça, on n'a pas pu éradiquer, ça, c'est sûr. Oh,
professeur, vous voulez dire un mot à Jomo ?
Oui, tout à fait. Merci beaucoup de ce témoignage parce que voilà, la sensibilisation, c'est quelque chose d'absolument primordial. C'est une des actions que nous menons, nous, en particulier à La Réunion avec le centre ressources que je coordonne, c'est essayer de sensibiliser l'ensemble des professionnels autour de cette question alcool. Là, depuis 3 ans que nous existons, nous avons formé beaucoup de professionnels de santé, mais pas que, également les professionnels de l'éducation nationale, ces enfants, ils sont à l'école, les assistantes familiales du Conseil Général, et puis la PMI, donc je suis très heureuse de vous entendre parler de la PMI. Là, depuis quelques mois, nous formons l'ensemble des équipes de PMI, donc du département de La Réunion,
oui,
pour qu'il puisse y avoir à la fois donc, des messages de prévention qui soient diffusés auprès, donc, auprès des usagers, et puis également des possibilité améliorée de repérage de ces femmes qui sont en difficulté avec l'alcool ou simplement de repérage d'une consommation qui peut être une consommation festive mais à une dame pour laquelle il faudra donner de l'information et puis du repérage de ces enfants qui ont des difficultés précoces. Donc la PMI est extrêmement, est un acteur extrêmement important. Sur le tabac, bien sûr, la prévention, elle est extrêmement importante également. Et puis souvent, quand il y a consommation d'alcool, très souvent, nous l'avons montré à peu près, dans 70%, il y a du tabac. Quand il y a du tabac, dans à peu près 30-40%, il y a de l'alcool. Donc oui, il y a des consommations croisées. Alors c'est vrai que le tabac est moins toxique, je ne vais pas dire qu'il est bon, je ne dirai pas ça, mais il est moins toxique que l'alcool. Sur le bébé, le tabac n'engendre pas de malformations, n'engendre pas de troubles neurologiques comme l'alcool. C'est vraiment l'alcool qui est le produit le plus dangereux et de loin, pendant la grossesse. Mais il est clair que le message qu'on doit offrir aux femmes, aux couples, c'est de toute façon de limiter toute consommation de ces produits toxiques et si possible d'arrêter bien sûr l'alcool.
Voilà, Jomo. Merci en tout cas pour votre contribution.
Attends, excusez-moi.
Oui, rapidement, Jomo.
Je fais juste une petite sensibilisation ajoutée à celle du docteur, parce que eux ils sont docteurs, nous sommes des professionnels administratifs. Moi, la sensibilisation que je voudrais faire en tant qu'Africain, en tant d'abord homme, citoyen du monde, je dirais à toutes ces femmes-là qui sont adhuques à l'alcool et tout, que pendant 9 mois, franchement, moi, je peux leur demander d'arrêter de boire l'alcool parce que pour 9 mois, on ne peut pas briser la vie de quelqu'un qui va faire peut-être 100 ans ou quoi que ce soit. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde aspire à avoir des descendants et ces descendants-là doivent être un exemple. Il ne faudrait pas qu'on colore leur vie à l'alcool. Et ça, c'est vraiment dangereux. Si elles peuvent se passer de l'alcool pendant la grossesse, ce serait très, très bien. Et c'est ce que nous, on leur disait en PMI. On leur disait, certes, l'alcool, on est d'accord, vous pouvez le faire peut-être de manière festive, on peut comprendre. Et encore, il faut aussi, on peut l'arrêter définitivement, il faut l'arrêter.
Merci
Mais
pour
il faut
le
pas
message.
Mettre en danger la vie
Merci.
De votre bébé ou une histoire d'alcool.
Complètement. Merci beaucoup pour ce message, Jomo. Merci beaucoup pour votre appel. Alors, professeur, lorsque l'on a bu, par exemple, de l'alcool avant d'apprendre que l'on est enceinte, alors comment on doit réagir ? Est-ce qu'on doit paniquer ou dites-nous un petit peu.
Alors non, je veux dire, il ne faut pas paniquer, surtout si c'est des consommations qui restent vraiment très anecdotiques. Tout. L'important, c'est d'en parler. Hein, l'important, c'est de, alors, c'est surtout de ne pas rester avec les inquiétudes, avec du stress. C'est surtout d'en parler avec le professionnel avec qui on a envie d'en parler, j'ai déjà envie de dire. Hein, et puis, bien sûr, celui qui suit ou qui va suivre la grossesse. Il faut en parler à son médecin traitant, il faut en parler au gynécologue qui va suivre, aux sages-femmes également, donc en leur expliquant, voilà, sans cacher, parce que parfois, voilà, c'est difficile d'en parler et on le sait très bien, mais il faut pouvoir aborder cette question-là avec le professionnel qui va de toute façon, je veux dire, évaluer le risque, évaluer la consommation, pouvoir, bon bah déjà, d'ores et déjà, donner à cette dame un message adapté pour la suite. Je veux dire, oui, elle a consommé. Maintenant, ce qui est très important, c'est qu'elle ne recontinue pas à consommer, bien évidemment, en lui expliquant les dangers de l'alcool, parce que si on n'explique pas les dangers, on n'est pas du tout crédible. Et puis, si c'est une consommation très occasionnel. Alors, toujours le faire apparaître dans le dossier et ça permettra un suivi adapté. Ouais, c'est une consommation très importante. Là, c'est clair qu'il faudra un suivi, on va dire, plus spécialisé, avec des équipes plus spécialisées en particulier qui donc s'occupent du diagnostic prénatal, font des échographies de référence. Et puis surtout, si c'est une... on s'intéresse au bébé, bien sûr, en adaptant le suivi, mais il faut s'intéresser évidemment à cette femme. Pourquoi a-t-elle consommé ? Dans quel contexte a-t-elle consommé ? Est-ce que c'est, comme l'auditeur le disait, de façon festive et dans ces
ou
cas-là...
Ou est-ce qu'il y a une dépendance qui est installée et du coup...
Voilà, est-ce que ce sont des consommations ? On a parfois des femmes qui ont des consommations, on va dire, chroniques très importantes tous les jours. Ces dames, elles sont malades de l'alcool. C'est une maladie, c'est la maladie alcoolique, c'est une maladie grave, c'est une maladie chronique. Il suffit pas de lui donner des messages d'information. Cette dame, je veux dire, elle pourra pas arrêter comme ça sa consommation. Il faut l'aider, c'est-à-dire qu'il va falloir l'orienter vers un réseau de professionnels,
les addictologues,
qui
notamment
se connaissent, voilà, qui parlent entre eux, qui vont vraiment se réunir autour du dossier de cette femme, et en particulier des addictologues qui vont pouvoir vraiment l'aider à diminuer, et on l'espère parce qu'il y a grossesse, arrêter cette consommation. Et puis bien sûr un suivi psychologique, bien sûr également une aide sur le plan social.
Ouais.
Donc c'est vraiment tout ce contexte de consommation qu'il va falloir analyser.
Alors, on a beaucoup parlé de la grossesse, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais un mot aussi sur l'allaitement, puisque lorsque l'on boit et qu'on allaite, on alcoolise aussi l'enfant.
Bien sûr. Alors, l'allaitement, on va dire, est quelque chose à part. Alors, déjà, je coupe l'herbe sous pied à une idée qui est de consommer de la bière, c'est bien pour la montée de lait, etc. Non, c'est l'alcool, de façon générale, ne va pas améliorer la montée de lait. Alors ensuite, bien sûr, on déconseille de façon motivée la consommation d'alcool pendant l'allaitement. Je serais moins formelle que pendant la grossesse elle-même.
D'accord.
Tout à l'heure, on expliquait que quand on consomme de l'alcool, si madame elle a 2 grammes d'alcool dans le sang, chez le bébé, il y aura également 2 grammes d'alcool.
Alors, c'est pas le cas
parce que voilà. Le placenta ne filtre pas, le sein filtre.
D'accord.
Le sein filtre, et dans le lait, il y aura une concentration beaucoup, beaucoup plus faible que celle qui est présente dans le sang de la maman. Alors, c'est pas pour ça qu'il faut consommer, mais, je veux dire, si on a une dame qui est très en difficulté avec l'alcool, mais qui a réussi déjà à beaucoup diminuer sa consommation. Et si cette dame, pour elle, et c'est très important de pouvoir allaiter son bébé, c'est très important en termes déjà de lien affectif qui va s'établir entre elle et son bébé, je pense qu'on peut discuter avec elle de comment adapter l'allaitement, éventuellement tirer son lait pour être à un moment où finalement la quantité d'alcool au niveau du sein, elle est la plus faible. On peut discuter de cette façon-là.
Alors, Alcool Info Service répond au 0 980 980 930. Faites-vous aider. Parlez-en à votre médecin traitant. N'hésitez pas aussi, le site de Santé Publique France à votre disposition pour toutes les informations, www.santépubliquefrance.fr. Il reste 2 petites minutes, professeur. Comment on pourrait conclure cette émission ? Qu'est-ce qu'on doit retenir ?
Alors, je pense qu'on doit retenir qu'on est en 2019. Le syndrome d'alcoolisation fœtale, il a été décrit en 1968 en France. Et il a été décrit pour la première fois en France. Ce n'est pas rien. Donc, on est plus de 50 ans après, finalement, la description de ce syndrome. Les choses évoluent, les mentalités évoluent, mais ça prend du temps et c'est quand même extrêmement lent. Bon, on commence à ressentir une volonté politique, une volonté de la part des professionnels, mais il faut qu'on accélère absolument le mouvement. On manque encore beaucoup en France de professionnels formés. Donc là, c'est, je prends mon rôle de d'universitaire pour dire que vraiment, c'est un message extrêmement important au niveau de la formation. Et puis, on manque encore cruellement de centres ressources comme celui que je coordonne à La Réunion. Ouais. Il y en a deux en France, La Réunion et l'Aquitaine. Et puis surtout, on manque beaucoup de structures qui permettent de faire le diagnostic de ces enfants. Il n'y en a qu'un actuellement en France. Il est à La Réunion. Il faut absolument dupliquer ce genre d'opération parce que le syndrome d'alcoolisation fœtale, il touche absolument toutes les régions de France.
Merci, professeur Bérénice Doré. Je rappelle que vous êtes directrice du Centre Ressources Ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fœtale du côté de La Réunion. Merci beaucoup. On vous souhaite une très bonne journée. Merci de vous être rendu disponible pour nos auditeurs ce matin.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Et à très bientôt. C'est la pause et Ambiance Africa arrive dans un instant. La synthèse de l'actualité internationale avec nos confrères de BBC Afrique. C'est dans 5 minutes. Bougez pas.